Vous écoutez, on lit pour vous.
Prescrire la collaboration. Un texte de Philippe Mercure, paru le 9 décembre 2024 dans la presse. Médecins de famille, spécialistes, infirmières, intervenants en tout genre. Quiconque a fréquenté notre système de santé sait qu'un grand nombre de professionnels s'occupent de nous. Et que la collaboration entre tout ce beau monde est loin d'être toujours optimale. Consciente du problème, l'Université de Montréal veut apprendre aux futurs professionnels de la santé à mieux collaborer entre eux, avec les patients et avec leurs proches. Pour ça, elle a créé un cours bien spécial destiné à enseigner la collaboration par la collaboration. Je voulais y assister, on m'a plutôt demandé d'y participer. Un matin de novembre 2024, une belle agitation règne dans les nouveaux locaux de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal à la Place du Puy. Pas moins de 1500 étudiants et 160 animateurs participent aujourd'hui à la toute nouvelle mouture d'un cours complètement repensé. Mêlé au flot d'étudiants, je cherche la salle qui m'a été assignée. M'y attendent Chantal Brault, orthophoniste, et Tiffany Clovin, patiente partenaire. Elles seront les co-animatrices de cette session qui s'étirera sur une demi-journée. Autour de la table se trouvent 10 étudiantes, en forte majorité, et étudiants. Sciences infirmières, travail social, pharmacie, médecine, ergothérapie, psychoéducation, médecine dentaire. Elles viennent des nombreux programmes de sciences de la santé de l'université. Chantal Brault, orthophoniste et co-animatrice de la rencontre, annonce « Le contenu qui se discute ici est confidentiel. Il faut être respectueux en tout temps. On va vous demander de vous dévoiler dans vos perceptions, dans vos impressions. Ça va donc créer un espace de vulnérabilité. » On sent une certaine nervosité gagner les étudiants. Une nervosité que je partage. On m'a bien prévenu. On ne veut pas ici d'un journaliste observateur. Si je veux couvrir le cours, je dois me mouiller et y participer, même si je n'ai aucun bagage en sciences de la santé. Chaque étudiant a préparé un cas à présenter. Une situation difficile qu'il a vécue et qui a posé des défis de collaboration. 3 de ces cas seront présentés, puis longuement décortiqués en groupe. Nos co-animatrices insistent. L'objectif n'est pas de trouver la bonne réponse, ni de s'entendre sur qui aurait dû faire quoi dans la situation présentée. Il s'agit plutôt d'exposer les liens entre les gens impliqués et d'en discuter dans un esprit de collaboration. L'un des défis est que les étudiants proviennent de 13 programmes universitaires différents. Les étudiants n'ont pas tous les mêmes savoirs. Souvent, ils n'ont même pas le même vocabulaire, souligne Marie-Pierre Codzi, médecin de famille, chercheuse en pédagogie des sciences de la santé et coprésidente de la formation partenaire. C'est le nom du cours auquel je participe. Cette diversité reflète évidemment la réalité du terrain. Autour d'un même patient gravitent souvent un grand nombre de professionnels de la santé qui ne sont pas toujours sur la même longueur d'onde. Impossible pour moi de révéler le moindre détail concernant les cas dont nous avons discuté en groupe. Le secret vise à protéger l'identité des patients impliqués dans les histoires, mais aussi celle des étudiants. Plusieurs ont livré des témoignages émotifs ou évoqué des différends avec des collègues. Marie-Pierre Codzi m'a quand même fourni certaines généralités sur les cas les plus discutés au sein des 160 groupes. Ils concernent des étudiants qui se retrouvent en désaccord avec la conduite de leur superviseur, qui sont pris dans des conflits entre deux professionnels, qui peinent à établir une bonne relation avec un patient, qui jugent que les patients collaborent mal ou prennent de mauvaises décisions pour eux-mêmes. Au sein de notre groupe, les discussions vont bon train. Je suis moi-même choqué par l'un des trois cas, où j'ai l'impression que les professionnels de la santé ont abandonné leurs patients. Ces émotions exprimées sont du carburant qui nourrit les conversations. Les co-animatrices incitent à analyser les relations entre les différents intervenants qui figurent dans les histoires, en prêtant attention aux dynamiques de pouvoir qui peuvent être à l'œuvre. Au fil de la matinée, je peux mesurer l'apport de la co-animatrice Tiffany Clovin, patiente partenaire. Madame Clovin est atteinte d'asthme et d'endométriose. Lors des discussions, elle ramène souvent la perspective sur les besoins et les volontés du patient. Face aux étudiants qui parlent d'un sentiment d'impuissance lorsqu'ils travaillent comme stagiaires au sein d'équipes multidisciplinaires, Madame Clovin souligne que les patients se sentent souvent impuissants eux aussi devant la complexité du filet qu'on déploie autour d'eux. Est-ce que la patiente n'était pas disponible pour collaborer ou est-ce qu'elle n'était pas disponible pour rentrer dans le mandat, la petite case, la façon de faire du système? Demandera à un moment Madame Clovin. La docteure Marie-Pierre Codzi, co-présidente de la formation partenaire, souligne « Historiquement, on disait que c'était important de collaborer pour le bien du patient. Maintenant, on veut collaborer non pas pour le patient, mais avec le patient. Ce n'est pas du tout la même posture. » Ce n'est pas un hasard si l'autre co-présidente de la formation est justement une patiente partenaire. Il s'agit d'Annie Descoteaux, responsable du bureau du patient partenaire à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Le patient, il connaît sa vie et sa maladie. Il est un expert du système. C'est lui qui navigue dedans et qui fait le lien entre divers intervenants, rappelle-t-elle. Pendant l'atelier, je suis ravi de constater que les étudiants ont le réflexe d'élargir la notion de collaboration au-delà des professionnels de la santé. Y a-t-il un membre de la famille, un ami, un proche aidant qui peuvent être consultés ou aidés à dénouer des situations? À la fin, un retour sur l'atelier est effectué. Les étudiants sont unanimes pour dire qu'ils ont apprécié leur expérience. On a des professions différentes, mais on vit tous les mêmes émotions, constate une étudiante. C'est beau de voir qu'au fond, on a tous le même objectif, le bien-être du patient. C'était « Prescrire la collaboration », un texte de Philippe Mercure, paru le 9 décembre 2024 dans La Presse.
Trois questions sur la solitude. Un texte de Marie-Josée Roy, paru dans Bel Âge. Comment peut-on contrer le sentiment de solitude qui s'installe parfois lors des périodes de célébration? On peut notamment s'impliquer comme bénévole, par exemple avec les petits frères, les banques alimentaires, etc. Rassembler des personnes seules pour un repas, appeler des membres de notre famille qu'on ne voit pas aussi souvent qu'on le voudrait, ou distribuer des cartes à des voisins isolés sont aussi de bons moyens pour contrer la solitude. De quelle façon la vie en communauté, dans une résidence par exemple, peut-elle diminuer le sentiment de solitude? On peut y développer de nouveaux liens en participant aux activités organisées par la résidence, partager des repas avec d'autres personnes et aussi s'impliquer dans le comité des usagers. Quand on a perdu des amis chers, faire de nouvelles connaissances peut contribuer à apaiser le sentiment de solitude. Quel est le moment approprié pour aborder le sujet d'un déménagement en résidence avec un proche? Un moment approprié pour aborder le sujet est quand la personne aînée elle-même fait allusion à un déménagement possible ou à ses insécurités de vivre dans son environnement actuel. Ce moment peut survenir à la suite d'un événement qui lui a fait peur, comme une chute. À ce moment, il est utile de l'accompagner dans sa réflexion afin qu'elle analyse de façon globale le pour et le contre et le choix du milieu de vie et de la communauté où elle désire vivre. C'était « Trois questions sur la solitude », un texte de Marie-Josée Roy paru dans Bel Âge.
Décembre en 40 ans de fugue, il va y avoir du sport. Un texte de Benoît Mignot paru le 28 novembre 2024 dans le magazine Fugue. La fin d'une année et le début de la nouvelle sont souvent synonymes d'un temps d'arrêt pour évaluer les événements marquants, mais également les gains comme les défaites. Un article du Fugue de 1993 illustre bien cette tradition. Revue de presse, 1993, première partie. Mais à quel moment ces revues de l'année ont-elles débuté dans les magazines LGBTQ du Québec et quels autres événements ont marqué le mois de décembre? Le premier magazine destiné aux communautés gays du Québec est Le Tiers, en 1971, soit 2 ans à peine après la décriminalisation de l'homosexualité au Canada. Il faut cependant attendre 1978 pour qu'une véritable revue des événements LGBTQ de l'année fasse son apparition dans les pages d'un magazine, soit Gay du Québec, en février 1979. C'est arrivé en 1978. Le Berdache prend ensuite le relais avec des titres qui sont parfois emblématiques des enjeux en place. 1979, une année bien remplie. Février 1980. Petit calendrier de la répression. Février 1980. Rétrospective 1980. Février 1981. Il faut par la suite attendre 12 ans, soit en 1993, pour que Fugue reprenne le flambeau de cette tradition, et ce, sans jamais discontinuer depuis. Pourquoi une si longue pause? Il faut comprendre que la rédaction d'une revue des événements de l'année n'est pas une mince affaire, puisqu'elle implique, à une époque où Internet tenait encore de la science-fiction, de retracer et d'évaluer une somme astronomique d'informations dans des sources imprimées. Bonjour les nuits blanches. Seuls les magazines dotés d'une équipe très solide étaient donc en mesure de réaliser un tel exercice. Celui-ci est cependant fort intéressant, puisqu'il permet au lectorat de prendre la mesure du chemin parcouru et des enjeux qui sont toujours bien présents. C'est également le moment d'identifier les alliés et les imbéciles qui le jalonnent toujours. C'est dans cet esprit que, dès décembre 1981, dans le Berdache, on retrouve une célébration de certains hommes et femmes qui se sont particulièrement illustrés. Adresse du Nouvel An, nos champions, l'ADGQ couronne ses héros. C'est en 1995 que Fugue prend le relais, alors que Richard Burnett amorce la publication de son classement annuel des héros et des zéros. Cette chronique suscite tant d'intérêt et de curiosité que lors de la publication du numéro de décembre 2018, Year in Review, Heroes and Zeros of 2018, on souligne qu'il s'agit de la 23e édition consécutive du palmarès. Censure douanière. En décembre 1985, 2 articles de la revue Sortie nous rappellent à quel point la censure d'ouvrages ayant un contenu LGBTQ ne date pas d'hier. La Commission des droits de la personne du Québec répond « Affaire de Joy of Gay Sex » et « Copie conforme, Affaire de Joy of Gay Sex ». Cette histoire absurde débute en 1979, alors qu'une femme acquiert « The Joy of Gay Sex », « Les plaisirs de l'amour gay » dans une librairie du Manitoba alors qu'elle recherchait « The Joy of Cooking ». Outrée et probablement aveugle, elle dépose une plainte aux forces de l'ordre et la librairie Coles & Classics se voit sommée de retirer le titre sous peine d'être accusée de vendre du matériel obscène. La librairie obtempère. Mais l'affaire se retrouve bien vite devant les tribunaux et sous les feux de l'actualité, puisque le procureur général du Manitoba promet de poursuivre toute librairie qui vendrait le dit titre. Au Québec, la cause se retrouve devant la Commission des droits de la personne, et en 1987, la librairie Glad Day et le Comité canadien contre la censure douanière décident de contester la décision des douaniers, en arguant que l'interdiction est basée sur la présence de passages décrivant des actes de pénétration anale, alors que The Joy of Sex, sa contrepartie hétérosexuelle, comporte un contenu semblable et n'est pas interdite. Ce n'est qu'en 1989 qu'un juge décrète que le livre n'est pas obscène, soit 10 ans après la première intervention policière. Un événement qui n'est pas sans rappeler les nombreux cas de censure, particulièrement aux États-Unis, mais également au Canada, à l'endroit d'ouvrages abordant les questions de genre, de l'homosexualité ou même de l'existence de l'esclavagisme dans l'histoire américaine. Front de libération homosexuelle. En décembre 1970, la revue Mainmise consacre 17 pages à la publication du Manifeste du Front de libération homosexuelle, la traduction française de « A Gay Manifesto », écrit par l'activiste américain Carl Whitman. Ce texte eut un impact considérable sur l'émergence d'un discours revendicateur structuré à travers le monde et donna naissance à de nombreuses variations. En décembre 1978, par exemple, l'Association pour les droits de la communauté gay du Québec annonce l'adoption de son manifeste et de son programme. Manifeste et programme de l'ADGQ, adopté le 30 septembre 1978, Gays du Québec. Les toilettes publiques. En décembre 1980, le Berdache consacre un dossier aux lieux de sortie en dressant un inventaire et une évaluation des tavernes, espaces de cuir, discothèques, parcs urbains et toilettes publiques. Toilettes, closettes, bécosses. Et 5 mois de toilettes publiques, un verdict. L'intérêt de relire le premier article est de prendre le pouls des lieux de baise rapides de l'époque, soit les toilettes publiques suivantes. Hôtel Lorraine-Élisabeth, Galerie d'Anjou, Gare Centrale, L'Abbé, Place Bonaventure, Place Versailles, Complexe Alexis-Nion, Eaton, 2001, Université et plusieurs autres. Le tout s'accompagne d'une brève appréciation où l'on apprend notamment que les toilettes du 2001 rue Université sont les plus courues de Montréal. On y retrouve de tout, voyeurs, exhibitionnistes, actifs, passifs. Les jeudis et les vendredis soirs, à partir de 16h, ça devient un endroit tellement fréquenté qu'il s'y trouve quelqu'un pour faire le guet pendant que vous passez à l'action. Dans le second article, un certain Pierre Boileau analyse les dossiers de la Cour municipale de Montréal sur une période de 5 mois et constate que toutes les dénonciations, 58 au total, sont le fait de policiers en civil et que de ce nombre, 47 sont le fruit de 3 policiers qui agissent souvent de concert. Plusieurs extraits des rapports de police décrivent le modus operandi permettant d'hameçonner les hommes qui fréquentent les lieux. Ailleurs dans l'actualité, le Ici Montréal du 20 décembre 1952 rapporte que 2 homosexuels se racontaient fleurette en automobile, rue Saint-Timothée, et précise que les 2 hommes furent arrêtés sur le champ. Le 28 décembre 1957, le même magazine annonce que les époux Jean-Guy Tremblay et Franck Lantaigne, 2 homos de Saint-Hyacinthe, sont incarcérés. L'article précise que des voisins bien intentionnés ont dénoncé les hommes qui vivaient ensemble et que ces derniers ont été condamnés à des peines de prison. De son côté, Flirt et Potin révèlent que les motels sont devenus les repères des lesbiennes et homos montréalais. 19 décembre 1970. Il titre un fait surprenant, le 26 décembre de la même année. Une lesbienne a fait de moi une ardente femme aux hommes. On ne peut qu'être intrigué par la mécanique derrière cette conclusion. Parlant des plaisirs entre femmes, le Police Gazette du 28 décembre 1924 publie un poème sur ce sujet intitulé « Les baisers ». Finalement, pour souligner les fêtes, le 8 décembre 1943, la revue Moderne publie une nouvelle littéraire comportant de fortes thématiques gays. Le réveillon, ce qui arriva à un prisonnier nazi évadé la veille de Noël d'un camp d'internement. C'était décembre en 40 ans de fugue, il va y avoir du sport. Un texte de Benoît Mignot, paru le 28 novembre 2024 dans le magazine Fugue.
Coup de projecteur sur le documentaire Sink Meep Dig Deeper sur la restauration d'un territoire autochtone déclaré anéanti. Un texte de Marie-Paul Berthiaume, paru le 29 octobre 2024 dans La Source. Un petit marais endommagé des Tukenay West en Colombie-Britannique, niché sur le territoire traditionnel du peuple Sinixte, est devenu avec le temps un symbole de décolonisation. Le documentaire de 70 minutes « Sink Meep, Dig Deeper » relate le parcours de 7 ans mené par les co-réalisatrices et coproductrices Lorna Visser, une allochtone environnementaliste, et Marilyn James, la matriarche du groupe autochtone Autonomous Sinixte. Arrêt sur image sur un riche héritage autochtone de cet ancien village. Avec l'aide de leurs alliés, les deux femmes ont guidé la restauration écologique du marais Sink Meep, ce qui a commencé comme une mission de restauration écologique pour la fiducie foncière Valhalla Foundation for Ecology, VFE, s'est transformée en un examen de la gestion des terres, de l'histoire profonde et de la réconciliation entre les autochtones et les allochtones. L'approche hybride du documentaire met en lumière la collaboration entre les perspectives allochtones et autochtones. Elle révèle des pans gommés de l'histoire autochtone du territoire et fait découvrir celle plus spécifique du peuple Sinixte, déclaré éteint, voire anéanti, par le gouvernement canadien depuis 1956. Perspective allochtone. Lorsque la Valhalla Foundation for Ecology a acquis le marais de 34 acres en 2017, elle s'est uniquement concentrée sur la restauration écologique. Comme les spectateurs pourront le constater dans le film, nous pensions au début que la nature avait la capacité de se guérir elle-même. Nous avons vite compris qu'il nous restait beaucoup de travail à accomplir. Tout au long de ce processus, nous avons donc collaboré avec des biologistes, des ingénieurs, des spécialistes en restauration de zones humides, les membres des Autonomous Sinixte et des bénévoles, explique la directrice de la VFE, Lorna Visser. Une équipe concentrée sur la restauration a éliminé des espèces envahissantes, planté plus de 1200 arbustes indigènes, a agrandi la zone humide et aménagé un espace inclusif composé d'un sentier accessible aux fauteuils roulants, menant à une aire naturelle qui surplombe le marais. La découverte de la présence d'un village sinixte a marqué un tournant décisif, explique Lorna Visser. Comment la section provinciale d'archéologie a-t-elle pu affirmer que la valeur patrimoniale autochtone de ce site est négligeable? Si les colons ont besoin d'être convaincus, le livre Handbook of North American Indians de la Smithsonian Institution indique clairement le site du village. Le parcours d'une matriarche. Pour Marilyn James, Sink Meep, Dig Deeper documente la réparation culturelle conjointe par les Sinixtes et les Alloctones d'un marais situé sur le site d'un village traditionnel. Même si le peuple Sinixte n'a plus de village à cet endroit, ce film, réalisé en collaboration avec nos alliés de la VFE, reconnaît et honore le fait que notre peuple y ait vécu pendant longtemps. Il témoigne de ce qu'aurait été notre vie sans la colonisation, l'extinction et le dépouillement de notre patrimoine. La restauration du territoire, illustrée dans le documentaire, témoigne du retour des terres à l'état dans lequel nos ancêtres les auraient préservées. Elle espère que Think Meep Dig Deeper permettra aux non-autochtones qui le regarderont de sonder leur cœur afin de comprendre les responsabilités des Sinixtes en vertu de nos lois traditionnelles. Et j'espère que les spectateurs verront comment des relations interculturelles productives et respectueuses peuvent s'établir entre les peuples autochtones et alloctones. Toujours selon Marilyn James, le film illustre le travail d'éducation, de décolonisation et de développement de liens non seulement entre les individus, mais surtout avec le territoire, selon les lois Sinixtes de Wuplaken. La responsabilité pour tout ce qui se trouve sur leur territoire et de Smoum Yem, le bien-être de la communauté appartient aux femmes. Ces notions sont essentielles si nous souhaitons établir des relations saines entre tous les êtres de la planète et pas seulement avec les Sinixtes. En tant que co-réalisatrice et co-productrice du film Think Meep, Dig Deeper, Marilyn James a voulu mettre en lumière les politiques génocidaires des gouvernements coloniaux et les attitudes et politiques racistes qui nuisent aux peuples autochtones et à leur territoire. Pour les Sinixtes en particulier, l'impact de ces politiques est profond. Nous sommes injustement considérés comme éteints à travers la loi sur les Indiens au Canada. Malgré cela, nous, les Autonomous Sinixtes, continuons à assumer nos responsabilités en tant que gardiens légitimes de ce territoire, déclare la matriarche. C'était Coup de projecteur sur le documentaire Think Meep Dig Deeper sur la restauration d'un territoire autochtone déclaré anéanti, un texte de Marie-Paul Berthiaume, paru le 29 octobre 2024 dans La Source.